Intervenez.
Au 01 45 24 7000, Denis nous appelle de l'Oise. Bonjour Denis.
Oui, bonjour, merci pour votre émission. J'ai posé une question à Nicolas Bay sur la sortie de l'euro. Marie Le Pen veut sortir de l'euro, d'accord, mais pour aller où? Un sondage détermine, bon, les sondages parlent, d'accord, mais celui-ci est intéressant, il vient des Échos, les trois quarts des Français, 72% exactement, sont contre la sortie de l'euro. Et selon ce même sondage, 40% des sympathisants du FN sont contre cette proposition. Bon, ceci dit, Marie Le Pen a dit qu'elle ne procéderait pas à référendum et que si ce référendum était négatif pour elle, elle partirait, je dirais entre guillemets, enfin une bonne nouvelle. Donc j'aimerais avoir le sentiment de Nicolas Bay sur la sortie de l'euro.
Merci, merci Denis. Nicolas Bay.
Bonjour Denis, je crois d'abord que Marine Le Pen elle a une cohérence dans son projet, c'est-à-dire qu'elle souhaite retrouver notre souveraineté, c'est-à-dire notre liberté de nation dans tous les domaines. C'est en matière économique, territoriale, c'est la maîtrise de nos frontières, en matière législative, éviter que les lois à l'Assemblée nationale soient les simples transpositions des directives européennes, et c'est vrai aussi en matière monétaire, c'est retrouver une monnaie qui soit un outil au service de notre économie. Le constat aujourd'hui, il est simple, l'euro dessert nos intérêts. Dessert d'ailleurs les intérêts de la plupart des pays de la zone euro au bénéfice à peu près exclusif de l'Allemagne. Bon, eh bien si le système est mauvais, il faut réfléchir à le faire évoluer. Il ne s'agit pas du tout, contrairement aux caricatures parfois colportées, de sortir brutalement de l'euro. Il ne s'agit évidemment pas de fragiliser notre économie. Il s'agit de faire évoluer l'euro monnaie unique vers un euro monnaie commune. C'est revenir par exemple au système de l'écu autrefois, avoir une monnaie d'échange internationale mais qui soit constituée d'un panier des différentes monnaies nationales, chaque pays retrouvant ainsi une monnaie qui est adaptée à l'état de son économie. Aujourd'hui, on a une balance commerciale qui est déficitaire de 50 milliards d'euros. On aurait évidemment intérêt à avoir une monnaie moins fortement évaluée. On l'a vu d'ailleurs avec les Britanniques qui ont eu une baisse de la livre sterling ces derniers mois. Ils en ont été largement les bénéficiaires puisque le niveau du chômage est à 4,7% en Grande-Bretagne. C'est le niveau le plus bas depuis 40 ans. Donc je crois que avoir à nouveau une monnaie qui est adaptée à l'état de notre économie, c'est un enjeu absolument fondamental. Sur la question que vous posez sur la renégociation des traités.
Porté sur le sentiment des Français à l'écart d'une mesure qui effraie.
Non, mais je crois que chez les Français, il y a à la fois le constat que l'euro dessert sans doute nos intérêts et en même temps une certaine angoisse de pas forcément bien identifier quelles sont les solutions alternatives. Et je crois qu'il y a une nécessité de faire sur ce sujet-là, comme sur d'autres d'ailleurs, beaucoup de pédagogie. Nous, ce que nous défendons, c'est l'idée d'une renégociation générale des traités européens. On voit bien que l'Europe n'a pas apporté la croissance ni le plein emploi. Elle a apporté le chômage, la casse sociale, l'immigration massive, l'insécurité généralisée et même le terrorisme. Donc réfléchissons à sortir de ce carcan, à faire évoluer totalement, à renégocier de fond en comble l'Europe, à avoir une Europe pragmatique, respectueuse des identités et des spécificités de chaque peuple, une Europe des coopérations. Et c'est ce que nous proposerons aux autres pays membres. Et si on se heurte à un mur, comme M. Cameron avec M. Juncker, eh bien à ce moment-là, on soumettra à référendum aux Français, non pas la fin de toute idée européenne. Il y a une communauté de civilisation, il y a une amitié entre les nations européennes, mais la fin de cette Union européenne qui, finalement, on le voit bien, a organisé l'impuissance collective des nations européennes.
Vous êtes vous aussi sur un schéma plan A, plan B?
Oui, c'est-à-dire une renégociation dans un premier temps, et si c'est impossible, mais moi je crois que ce sera possible quand on voit ce qui se passe en Grande-Bretagne, quand on voit ce qui se passe en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie, il y a, je crois, aujourd'hui beaucoup de pays et beaucoup de gouvernements même qui souhaiteraient avoir une Europe construite totalement différemment.
Oui, mais pas de sortir de l'euro.
Oui, mais encore une fois, c'est un projet global. C'est une construction européenne totalement différente qui inclut en effet cette question monétaire. Mais vous savez, on ne pourra pas en faire l'économie de ce débat. On le voit, les prix Nobel d'économie eux-mêmes aujourd'hui sont très critiques sur l'euro et font le constat lucide que cette monnaie, elle dessert nos intérêts.
Sans proposer d'en sortir.
Ce qui est intéressant quand même, c'est de souligner que il y a tous les pays du monde ont une monnaie, ont la liberté monétaire. Mmh. Et finalement, ce modèle qu'on veut nous imposer en Europe, il n'est imité nulle part ailleurs sur la planète. Et d'ailleurs, la zone euro est la zone économique du monde qui a la plus faible croissance.
Oui. Vous pensez que du temps du franc, la France était souveraine d'un point de vue monétaire?
Bah oui, bien sûr.
On n'avait pas de dépendance à l'égard du marque.
Non, mais le simple fait d'avoir des échanges commerciaux nous place souvent en position évidemment de concurrence. Mais d'abord, on peut la réguler, la concurrence, avec des quotas, des droits de douane, de contingentement. Là aussi, on peut plus le faire dans le cadre de l'Union européenne. Et puis, je crois d'une manière générale que c'est important d'avoir encore une fois une monnaie qu'on adapte à l'état de son économie. La Suisse, c'est pas un pays sous-développé, Monsieur Cohen. Eh bien, régulièrement, ils effectuent des dévaluations pour avoir une monnaie qui est adaptée à leur économie. Aujourd'hui, on peut pas le faire. Et quand on nous explique que le fait de repasser en monnaie nationale qui amènerait automatiquement une baisse de 20%, ce qui est d'ailleurs faux, la baisse, elle serait plutôt à 8 ou 10%. Mais en réalité, ça pourrait évidemment très largement servir à nos intérêts. Donc, c'est pas du tout pénalisant. On le voit d'ailleurs avec l'euro. Depuis 2 ans ou 3 ans, a perdu 25% de sa valeur. La dette ne s'est pas envolée. La dette des Français ne s'est pas envolée. Leur épargne n'a pas fondu.
Joël nous appelle d'Alsace. Bonjour Joël.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
J'ai écouté attentivement hier soir Marine Le Pen à son meeting de Saint-Raphaël. J'ai regardé sur BFM TV patiemment et attentivement en espérant l'entendre expliquer ce qu'elle comptait faire si elle parvenait au pouvoir. Et en fait, ce que j'ai entendu, c'est une litanie de propos contre Macron, contre Fillon, contre. Et très peu de choses, ou rien quasiment, enfin, je suis resté sur ma faim concernant les propositions réelles, concrètes. Elle parlait du chômage qui est un fléau dans notre pays, mais elle n'a pas dit comment elle pensait contrecarrer le chômage. Et ce matin, votre invité dit toutes les choses qu'on dit contre le Front National, se plaint des mauvais traitements qu'on leur fait, des journalistes, etc. Mais sauf à l'instant à propos du franc, mais en l'occurrence je partage pas du tout son avis, mais sinon rien de concret, rien de proposé, rien de programmatique qui permette de dire bon bah effectivement sur cette chose et cette chose là ça m'intéresse de voter Marine Le Pen. Autrement dit, comment un Français, aussi patriote soit-il, qui a un cerveau à peu près correctement organisé, peut-il se décider pour voter pour Marine Le Pen, alors qu'elle ne fait qu'énumérer la litanie de toutes les griefs que les Français peuvent avoir contre le système actuel, mais en aucun cas, elle ne décide clairement, elle ne précise clairement ce qu'elle compte faire, elle.
Merci Joël.
Alors, je ne sais pas comment je pourrais voter pour elle, moi.
Merci Joël. Nicolas Bay.
Bon, voilà, on voit bien que c'est un commentaire militant. Évidemment que Marine Le Pen, dans tous ses meetings, peut formuler un certain nombre de critiques légitimes, au demeurant, et partagées largement par les Français sur nos concurrents, sur nos adversaires, sur ceux qui se sont partagé le pouvoir.
Elle passe beaucoup de temps à critiquer.
Non, elle a...
Notamment Emmanuel Macron,
vous le savez, à Lyon, il y a un peu plus d'un mois, 144 engagements extrêmement précis. Dans tous ses meetings et dans toutes ses interventions médiatiques, elle a l'occasion de développer ce projet. En matière économique, par exemple, notre projet, il est simple. C'est à la fois l'État qui joue à nouveau son rôle de protecteur, d'aménageur du territoire, de stratège, des protections douanières, le patriotisme économique, et en même temps, un État qui permet la liberté d'entreprendre, qui allège la fiscalité, les charges, les contraintes administratives qui aujourd'hui pèsent lourdement sur nos entreprises, c'est-à-dire qu'un État qui ne joue que son rôle.
Vous avez assisté à des meetings de Marine Le Pen, Nicolas Bay, vous avez entendu ces discours.
En l'occurrence, j'ai assisté au meeting de Marine Le Pen et Marine Le Pen, en permanence, formule à la fois un certain nombre de critiques, ça c'est le débat de la présidentielle, sur ce que proposent ou ce qu'ont fait ses adversaires, et présente son projet pour la France. Vous savez, la droite et la gauche sont englués encore aujourd'hui dans leur primaire, ils n'en sont jamais totalement sortis, ils font du nombrilisme politique, ils n'arrivent pas à rassembler la famille politique. Pendant ce temps-là, Marine Le Pen, elle trace son sillon, ça fait des mois et des mois qu'elle est à la rencontre des Français, qu'elle présente un projet complet, un projet chiffré, une vraie vision pour la France.
Chiffrait pas...
Si, si, il y a un chiffrage complet.
Pas sur tous les chapitres.
Ah bon, alors sur quoi, par exemple, il n'est pas chiffré?
Je n'ai pas les éléments.
Ah bon,
mais il n'y a pas
les éléments.
Il y a pas les chiffrages partout. Bah, par exemple,
si, bien sûr que si.
Ah bah, écoutez, le coût de la retraite à 60 ans, j'ai entendu des chiffres distincts de 10 milliards d'euros, à peu près.
Oui, mais d'abord, on peut faire des économies considérables dans notre pays, la fraude fiscale, la fraude sociale, l'immigration, la politique de la ville. Ensuite, on l'a bien vu, on a augmenté la durée de cotisation, ça n'a rien réglé au problème, c'était la réforme Fillon. Aujourd'hui, on sait très bien que les leviers principaux pour équilibrer un système de retraite par répartition, c'est l'emploi et c'est la natalité, c'est-à-dire faire une politique familiale ambitieuse, parce qu'aujourd'hui, on le voit très bien, augmenter la durée de cotisation dans un contexte de chômage de masse, ça augmente encore plus le chômage et ça déséquilibre encore plus les comptes publics et les comptes sociaux.
Franck nous appelle de Gap. Bonjour Franck.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Merci de prendre ma question. Je voudrais savoir si, suite aux propos tenus par Monsieur Alliot, numéro 2 du FN, vous comptiez l'exclure quand il parle d'imaginer apporter 20 millions d'Africains en France.
Oui, phrase tenue hier sur BFM et propos tenus sur BFM et qui suscite avant-hier, me dit-on, et qui suscite beaucoup de réactions au standard, effectivement, Louis Alliot qui parle d'imaginer la France important 20 millions d'Africains, a dit Louis Alliot.
C'est-à-dire, en fait, on peut plus critiquer l'immigration massive.
Non, c'est le mot importé.
Oui, bah d'accord. Oui, écoute, on voit très bien ce que ça signifie. Ça veut dire simplement.
Ça s'applique aux marchandises.
Oui, d'accord.
C'était la phrase. C'était imaginez la France qui importerait demain 20 millions d'Africains.
Imaginez, ça veut dire en gros, on ne peut plus subir cette immigration massive totalement incontrôlée. 200 000 entrées légales par an, des dizaines de milliers de clandestins. Selon les chiffres de M. Juncker lui-même, 3 millions qui sont arrivés en Europe, qui ne sont pas des réfugiés, qui ne sont pas des migrants.
C'est la critique de la dramatisation.
Pour l'immense majorité, ils ne fuient pas la guerre. Ce sont des clandestins qui, malheureusement, dans notre pays, sont souvent mieux traités que nos propres compatriotes. Quand on voit, par exemple, avec l'aide médicale d'État, qui sont soignés gratuitement, alors que des millions de Français aujourd'hui ne sont plus capables de faire face à leurs dépenses de santé. Donc, critiquer l'immigration massive, c'est légitime. Stopper l'immigration, mettre fin à toutes les incitations à l'immigration, ces espèces de pompes aspirantes qui sont devenues insupportables et qui créent une injustice intolérable. Parce que quand on loge gratuitement dans des centres de vacances ou dans des appartements acquisitionnés des clandestins, eh bien, c'est au détriment des Français qui, pour un certain nombre d'entre eux, aujourd'hui, on le sait, dorment dans la voiture ou dans la rue.
Mais vous avez vu les camps de réfugiés en Italie, en Grèce,
en France,
vous pensez que ces gens sont mieux traités que des Français, des Italiens
ou des
Grecs ?
Je dis simplement que quand ils sont en France, logés gratuitement avec l'argent du contribuable, oui, ils sont mieux traités que les SDF, oui monsieur, parfaitement.
Ah bon, très voilà. Bien.
Vous accusez souvent vos adversaires de vouloir faire peur avec le programme du Front National, la sortie de l'euro, etc. Mais vous-même, vous utilisez des arguments ou des ficelles. Bah, l'idée de l'immigration brutale de 20 millions d'Africains.
20 millions demain, donc c'est 20 millions demain importés.
Il y en a eu 3 millions en 2 ans qui sont arrivés en Europe. Bien sûr que vous savez qu'il y avait un rapport de l'ONU.
3 millions en 2 ans arrivés en Europe versus 20 millions de mains importées, il n'y a pas une petite exagération.
Ce chiffre, il résulte d'un rapport de l'ONU qui date d'il y a une quinzaine d'années. L'ONU expliquait que pour compenser le déficit démographique, il faudrait faire venir à peu près 25 millions, disait-il, en France.
Donc le mot importé n'est pas fortuit en fait. Vous pensez qu'il y a une politique publique volontariste des pouvoirs publics pour importer. Je reprends ce mot.
Quand on voit M. Macron qui nous explique qu'il veut libéraliser.
Non, mais c'est simplement pour souligner.
Quand M. Macron veut libéraliser les visas de l'Algérie vers la France, qu'est-ce qu'il veut faire ? Eh bien, il veut organiser cette immigration massive. Cette immigration massive, elle a été organisée aussi par une volonté de la finance internationale, d'un certain nombre de grands groupes, qui voyaient un moyen de peser à la baisse sur les salaires et les droits sociaux. On le voit avec Mme Merkel. M. Fillon et M. Macron se prosternent devant Mme Merkel, la félicitent d'avoir fait venir 1,5 million. De migrants en Allemagne. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire ? Elle a voulu faire entrer des esclaves, en réalité. Elle a voulu faire entrer une main-d'œuvre à bas coût, qui a une incidence, évidemment, sur le chômage en Allemagne, mais par ricochet en France, à cause notamment du détachement des travailleurs.
Elle a voulu simplement se montrer humaine.
Oui, parce que vous croyez que c'est humain de dire à ces gens-là, venez, alors qu'ils risquent de mourir en Méditerranée.
Venez, ils sont en Méditerranée.
Non, on pourrait évidemment utiliser, et ça coûterait moins cher, l'argent à les fixer à proximité de leur pays, des pays qu'ils fuient, c'est-à-dire des corridors humanitaire. Aujourd'hui, les faire venir, c'est engraisser les mafias et les passeurs et les faire mourir en Méditerranée par un certain nombre. La politique de fermeté, c'est la seule politique réellement humaine.
C'est fini. On marque une pause avant d'accueillir Augustin Trapenard et de retrouver Frédéric Becbédé.